Ce matin, elle s'est levée aux premières lueurs du jour. Dans ce cabanon de trappeur à Blanc-Sablon, dans le Grand Nord québécois, elle ourle son regard d'un trait de colle noire et met du rose sur ses joues. À 43 ans, Brigitte Bardot, emmitouflée dans sa parka, est aussi belle que lorsque, dans un geste incendiaire, elle relevait sa jupe verte devant une assemblée conquise. Et Dieu cria la femme, le film de Roger Vadim l'avait révélé. C'était il y a 20 ans, c'était il y a un siècle, une éternité. Car de showbiz, de paillettes, la star ne veut plus. Voilà 4 ans qu'elle a arrêté le cinéma. Et si elle accepte encore de voir des objectifs braqués sur elle, c'est pour une seule et unique raison, la défense de la cause animale, son combat, celui de toute sa vie. C'est Marguerite Yourcenar qui lui a ouvert les yeux sur la condition des bébés phoques au Canada. « Je suis persuadée que vous pouvez, plus que quiconque, convaincre le public féminin de boycotter les vêtements obtenus au prix de tant de douleurs et d'agonie, et ce qui est peut-être aussi grave, au prix de tant de brutalité et de sauvage cruauté de la part de l'homme », lui a-t-elle écrit. Cela fait plusieurs jours que Brigitte Bardot est arrivée sur le sol canadien, habitée par ses convictions.
« Et si je me sens forte aujourd'hui, c'est que je sais que derrière moi, c'est le monde entier. » Il y a des manifestations partout, à Londres, en Italie, en Allemagne, en France, pour dire « Canadiens, assassins !»
L'accueil a été violent. Traquée par 200 trappeurs, Bardot a dû se réfugier dans un chalet, bientôt encerclé par 4000 habitants, agacés de voir l'actrice venir se mêler de ce qu'ils considèrent comme leur tradition. Son hélicoptère a été saisi, elle ne pourra le rejoindre que sous l'escorte de la police montée. On veut la séquestrer, on l'interdit même de sortir du Canada. Mais Bardot ne lâche rien et revient à plusieurs reprises sur la banquise. Aujourd'hui va marquer l'histoire, elle le sait, elle le veut. À l'époque, on n'utilisait pas ce mot, mais ce que s'apprête à faire Brigitte Bardot, c'est le buzz. Dans un dernier coup d'éclat, elle fait poser l'hélicoptère de Greenpeace en plein territoire de chasse sur la banquise. La glace menace de se briser sous ses pas quand elle se dirige vers les Blanchons. Ils ont 7 minutes, 7 minutes pour sensibiliser le monde. Bardot s'allonge sur le blanc manteau gelé et enlace un bébé phoque. Nous sommes le 19 mars 1977, bébé le sexe symbole s'éclipse, Brigitte Bardot endosse son plus grand rôle, ambassadrice de la cause animale. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour J.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Merci d'être fidèle à Jour J sur RTL et en podcast. On remonte le temps. On file en 1977 dans un pays du froid, le Canada, où les bébés phoques, que l'on appelle les Blanchons, sont massacrés dès leur naissance pour souligner l'élégance de ces dames insensibles à la cause animale. Mais il en est une star mondiale de surcroît, qui le refuse et qui décide d'en faire son combat, c'est Brigitte Bardot. Véronique Lebrise, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes journaliste spécialiste sur la place des femmes dans le cinéma. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages à ce sujet, on y reviendra. La vie de Bardot, c'est un film en fait. Et j'ai l'impression que ce qui s'est passé ce jour-là au Canada, c'est une séquence culte.
Oui, une des séquences cultes de sa vie, mais c'est vrai que c'est un film, un roman, enfin c'est une vie très très bien remplie, ça c'est incontestablement, et avec des prises de position et des engagements qui sont très clairs, très percutants, très forts.
Je voudrais qu'on revienne, si vous le voulez bien, sur l'objet de la colère de Brigitte Bardot, afin que nos auditeurs mesurent l'ampleur de ce qui se passait alors au Canada. Écoutez.
200 hommes sont partis aujourd'hui par moins 40 degrés sur la banquise pour abattre à coups de massue 90 000 phoques nés il y a moins de 3 semaines. Au dire des scientifiques, cela représenterait la totalité des naissances de ce point de temps, une chasse qui entraînerait donc évidemment l'extinction de toute une race animale.
Véronique Lebrise, c'est vrai qu'on a tendance, peut-être pour les générations plus jeunes, ou même, moi j'avoue, hein, quand j'avais vu cette couverture de Paris Match avec Brigitte Bardot et un bébé phoque dans les bras, j'étais gamine, j'étais même très très gamine, et j'avoue ne pas avoir pris conscience de ce que ça représentait. En fait, elle a sauvé les phoques d'une extinction.
Ben oui, on peut dire ça, mais de toute façon, enfin, à l'époque, la cause animale était quand même traitée par-dessus la jambe, faut quand même être honnête. C'est elle qui a changé la donne et dans le monde entier, même s'il y a évidemment d'autres personnes qui ont agi pour ça. Et c'est vrai, c'était une image choc. En plus, ce phoque, c'était un peu une peluche. Donc, il y avait cette femme ultra puissante, hyper sexuée, hyper sexy, une icône en fait du cinéma, de la mode de la France, en fait, qui allait protéger, en fait, de façon très maternante, en plus, une peluche qui était, massacrée. C'est vrai qu'en fait, je crois que tout le monde a pris conscience du massacre.
À ce moment-là, oui. Voilà, à ce moment-là, parce qu'il faut le préciser, effectivement, c'était des bébés qui venaient de naître et qui étaient massacrés à même sur la banquise. On prenait leur peau et on laissait les cadavres sanguinolents sur le grand manteau blanc, quoi. Donc, il y avait vraiment quelque chose d'extrêmement sauvage.
Oui, c'était très sauvage parce qu'en plus, ils ne sont même pas tués, en fait. Ils sont juste assommés et on leur arrache la peau. Donc c'est
on les dépèce vivants.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc, on ne sait pas trop, en fait, s'ils sont morts ou pas. Et puis, il y a aussi cette confrontation, en fait, visuelle qui est très puissante parce que vous avez, quand ils sont blancs, on ne les voit pas. Mais quand ils sont dépecés, en fait, on voit la banquise couverte de sang. Évidemment, ça donne une image tellement sanguinaire, tellement malaisante, en fait, ouais. Des humains. Surtout que c'est juste pour de la peau animale et pas du tout pour se protéger du froid. C'est simplement pour un commerce mercantile, pour faire joli, c'est atroce en fait.
Vous l'avez dit, c'était une pionnière donc à cette époque. Brigitte Bardot, dès son arrivée au Canada le 16 mars 1977, annonce la couleur du combat qu'il habite.
Nous avons eu des appels du monde entier pour venir vous voir et essayer de trouver une solution à ce massacre qui écœure le monde. C'est honteux. Il y a une ombre horrible qui se propage sur le Canada à cause du massacre qui se passe. Et je crois que peut-être que vous ne vous rendez pas compte de la houle, de la haine que vous inspirez au monde pour le moment. Alors on est venu vous le dire.
Le monde entier, il était à ce point sensibilisé ou est-ce que c'est une sorte d'élément de langage de la part de Brigitte Bardot qui, quelque part aussi, déclare la guerre, hein. Elle ne mâche pas ses mots dès son arrivée sur le sol canadien.
Moi, évidemment, je suis française, donc j'ai vécu ça de la France. Et je suis plus âgée que vous, mais malgré tout, j'étais quand même assez jeune. Mais je pense que ça a eu une répercussion mondiale, parce qu'elle est connue mondialement. En fait, ouais. Elle, c'est une star qui est vraiment connue dans le monde entier. Donc oui, la répercussion a été mondiale. Surtout qu'après, on a appris que ça se passait effectivement au Canada, donc un pays qui a plutôt une image assez soft, en fait. Pas de massacrer les
moderne,
êtres vivants, voilà, assez moderne. Mais qui avait des intérêts aussi, en fait, qui étaient dans d'autres pays comme la Norvège, c'était une sorte de commerce international et donc une extermination qui pouvait avoir des conséquences au niveau mondial, en fait.
Alors, on sent dans les mots de Brigitte Bardot une femme qui est habitée par son combat, véritablement. On reviendra sur tout son parcours, hein, évidemment. En tout cas, en France, et elle le dit, elle le martèle, elle bénéficie d'un soutien solide.
J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Le secrétariat privé du président de la République, M. Giscard d'Estaing, a appelé mon secrétariat pour faire dire que M. Giscard d'Estaing interdise à partir d'aujourd'hui l'importation des peaux de phoque en France. C'est une nouvelle qui va dire... ça me fait vraiment quelque chose de formidable parce que si tous les pays du monde interdisent l'importation de la peau de phoque, eh bien il n'y aura plus de massacre de bébés phoques.
Elle a donc réussi, Brigitte Bardot, à faire de sa croisade un combat politique, Véronique.
Oui, et depuis longtemps, parce que ça, c'est pas sa première action. En fait, elle avait dénoncé la façon dont les animaux étaient abattus dans les abattoirs. Donc, c'était au début des années 60, dans une émission de 5 colonnes à la une, je crois.
Ouais. Elle était très jeune, d'ailleurs, et elle était pour... Parce qu'à l'époque, en fait, on abattait, les animaux comme ça dans les abattoirs, et elle a œuvré pour l'étourdissement.
Exactement, voilà. Et elle est arrivée, en fait, voir donc c'était le général de Gaulle à l'époque qui était au pouvoir. Elle était arrivée voir le ministre de l'Intérieur, je crois, avec des armes, ces fameux pistolets qui étourdissent. Elle a failli être arrêtée. Ça a été rocambolesque comme histoire, mais elle avait réussi à imposer ça. Donc ça, c'est donc les phoques, c'est son deuxième combat, sa deuxième victoire. Même si je crois qu'il va falloir attendre une vingtaine d'années avant que le massacre des phoques et de toutes les espèces en fait qui sont liées, c'est-à-dire les otaries, etc. Enfin, toute cette famille animale, que le commerce de leur peau soit interdit définitivement.
En tout cas, on notera qu'elle a rendu un vibrant hommage à Valéry Giscard d'Estaing lors de sa mort en 2020, en saluant le seul président qui lui ait apporté une aide précieuse pour les animaux. En tout cas, Bardot, elle a réussi son coup ce jour-là. Elle a été, je le disais en tout début d'émission, séquestrée presque dans un cabanon de trappeurs. Elle avait 4000 personnes en colère autour de ce cabanon. On a essayé de bloquer l'hélicoptère de Greenpeace qui lui avait permis d'accéder à cette zone particulière qui est la banquise. Donc on l'interdisait, on lui disait vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas agir. Et quand même, elle était super obstinée à ce moment-là. Elle est retournée sur la banquise envers et contre tous, 3 jours après son arrivée, c'est le 19 mars, 2 jours après qu'elle ait été bloquée justement par les trappeurs en colère. Elle est obstinée, elle parvient à faire cette photo en un temps record, 7 minutes, avec un Blanchon qui fera le tour du monde. Et un mois plus tard, écoutez la presse canadienne qui riposte.
La grande colère de Brigitte Bardot. On se souvient de l'épisode « Bébé, au secours des bébés phoques ». Or voilà que la presse canadienne publie aujourd'hui une photo sur laquelle Bébé porte un bébé phoque dans les bras. Et selon la légende de cette photo, il s'agirait d'un bébé phoque empaillé.
Alors je voudrais maintenant, si vous le voulez bien, parce que évidemment la presse, il y a eu un scandale en fait mondial, donc les Canadiens essayent de trouver une sorte de parade pour discréditer cette icône de cette ambassadrice de la défense animale. Réponse de Brigitte Bardot.
On peut dire que j'ai fait des photos avec un phoque empaillé, on peut aussi dire que j'étais empaillée moi-même. Et puis on peut dire ce qu'on veut, hein, à partir du moment où on commence à dire des trucs. Mais simplement, ceux qui vont le dire, attention à leurs fesses, parce que attention au procès. Hein.
Brigitte Bardot, c'était quand même une grande gueule aussi. Elle l'ouvrait, quoi.
C'est toujours, d'ailleurs.
C'est toujours une grande gueule, on y reviendra. Mais je parle à cette époque-là, déjà, c'est quelqu'un qui n'avait absolument pas peur de froisser son image.
Je ne sais pas si c'est une question d'image. Moi, je pense que son image, c'est d'être authentique et d'être sincère et d'être vrai. Ouais. Du coup, ben, c'est à l'inverse. Au contraire, elle avait intérêt à... Elle a raison, d'ailleurs, dans ce qu'elle dit, parce que c'est vraiment de la communication de crise de bas étage, quand même, ce qu'est le gouvernement canadien. Donc elle riposte avec ses armes, qui sont la vérité, son combat authentique, sa soif d'authenticité, parce qu'elle est comme ça.
Jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
Merci pour votre écoute attentive et toujours enthousiaste à jour J. Brigitte Bardot, pour les plus jeunes qui nous écoutent, c'est peut-être une dame âgée qui vit recluse dans sa maison de Saint-Tropez et qui a plein d'animaux chez elle, des chats, des ânes, des chiens, des cochons, des pigeons. L'arche de Brigitte en somme. Mais Brigitte Bardot, c'est une vie de combat, de buzz, de croisade acharnée pour faire avancer la cause animale, cause à laquelle nous sommes de plus en plus sensibilisés et c'est tant mieux. Véronique Lebris, vous êtes notre invitée. Merci d'être là. On peut parler, on le disait tout à l'heure, d'une pionnière. Mais comment son engagement, en fait, s'est-il concrétisé? Est-ce qu'elle a toujours été pour la défense des animaux, Brigitte Bardot?
Elle dit qu'elle a toujours été sensible à cette cause-là, que malheureusement, elle est née en 1934 et donc elle a grandi, en fait, elle a passé son enfance pendant la guerre et donc elle avait peu l'occasion d'être en contact avec des animaux alors qu'elle était quand même concernée par ça. Je me souviens d'un livre de Marie-Dominique Lelièvre qui raconte qu'elle avait sauvé une souris en fait dans sa manche dans la maison, donc elle avait récupéré une petite souris qu'elle gardait sur elle en fait et qui se baladait tout le long de son corps, donc quand elle était enfant. Et puis après, bon, elle a donc fait du cinéma, c'est comme ça qu'on l'a connue. Et son engagement, elle dit que sur le dernier film qu'elle a tourné, qui s'appelle L'histoire très bonne et très joyeuse de Colino Trouche-Chemise en 1973, il y avait une chèvre, en fait, qui faisait... C'est un film qui se passait au Moyen-Âge. Mmh. Et il y avait une chèvre qui participait, en fait, et qui était tenue par une... Enfin, qui était... il y avait une figurante, qui était une vieille dame, en fait, qui l'amenait sur le plateau. Et un jour, elle lui a dit, cette vieille dame, « Bon, ben, il faut vous dépêcher à finir ce film-là, parce que... on a besoin de la chèvre pour le méchoui, en fait, pour la communion de mon fils, et on va la faire en méchoui. » Et donc, Brigitte Bardot a acheté la chèvre. Donc à empêcher le fameux méchoui, l'emmener dans son hôtel de luxe, dans sa chambre, parce que autrement c'était, elle l'avait laissé dans les cuisines, mais elle a mis tellement le bazar en fait la chef que finalement on a toléré, comme c'était Brigitte Bardot, qu'elle la met dans sa chambre. Donc elle raconte qu'elle a dormi avec en fait dans son lit avec son chien et sa chèvre, et que elle a décidé en fait ce jour-là que non seulement elle arrêterait le cinéma, que c'était son dernier film, mais qu'en plus elle consacrerait la suite de sa vie à la défense des animaux qui l'avait toujours concernée.
Sur le jour J qui nous concerne, nous, ce soir, cette fameuse photo avec ce Blanchon en 1977 au Canada. Marguerite Yourcenar, elle a été inspirante hein, pour Bardot dans cette aventure.
Oui, alors c'est une histoire un peu contrariée. En fait, comme elle avait pris fait et cause Brigitte Bardot pour la cause animale et que Marguerite Yourcenar en avait entendu parler, elle lui a écrit une lettre en 1968, une lettre qui est magnifique d'ailleurs, hein, qui est vraiment... hyper bien écrite, mais enfin bon, ça.
C'est Marguerite.
Oui, voilà. Mais non, c'est vraiment, elle est vraiment très très belle cette lettre, très très touchante. Où elle, justement, elle dit, ben voilà, puisque vous êtes connue, puisque vous êtes sincère sur votre défense de la cause animale, je vais vous parler d'un problème qui est donc ce massacre des bébés phoques, et ce sera intéressant en fait que vous preniez la parole pour ça. Sauf que Bardot dit qu'elle a jamais reçu cette lettre. En fait. Donc il y a eu un décalage dans le temps, et finalement elle est quand même allée à Blanc-Sablon, là au Canada, pour défendre les bébés phoques. Et que, ayant entendu parler, évidemment, comme tout le monde, en fait, de la défense de Brigitte Bardot, cette fameuse photo, Marguerite Yourcenar l'a ensuite contactée. En fait, d'abord, elle a été élue à l'Académie française, et on lui a demandé qui elle voulait rencontrer. Elle a dit Brigitte Bardot. Et puis, bon, Brigitte Bardot l'a un peu prise de haut en lui disant, bah non, en fait, moi, je ne la connais pas, je n'ai pas envie de la voir, etc. Et Marguerite Yourcenar est allée à la Madrague, en fait.
Donc à Saint-Tropez.
À Saint-Tropez, chez Brigitte Bardot. Et elles ont passé la soirée ensemble. C'était pas du tout prévu, c'était improvisé.
À la bonne franquette, chez Brigitte.
C'est ça. Enfin, au champagne quand même. Mais bon, à la bonne franquette quand même. Et donc elles ont passé effectivement la soirée. Et là, Marguerite Yourcenar lui a parlé de la lettre qu'elle lui avait envoyée. Et Brigitte lui a dit, bah non, mais moi, je n'ai jamais reçu cette lettre. Donc elle lui a réécrit, en fait, elle lui a redonné, parce qu'elle l'avait gardée. Et cette lettre a été publiée dans la correspondance de Marguerite Yourcenar.
Et effectivement, une lettre absolument magnifique. Brigitte Bardot, elle a tout de suite reçu le soutien des écologistes et des défenseurs de la cause animale, parce que c'est Greenpeace qui l'a accompagné en fait au Canada.
Bah, elle est assez fâchée avec les écologistes en fait. Hein. Elle trouve qu'ils agissent pas assez. Elle aime pas les partis politiques.
Parce que Paul Watson, qui est le fondateur de Sea Shepherd aujourd'hui, hein, qui est un activiste écolo, dit qu'il était effectivement sur place ce jour-là avec l'hélicoptère de Greenpeace, donc pour pouvoir accompagner Brigitte Bardot. Donc en fait, elle a mené, ce que vous nous expliquez, son combat un peu en solitaire, quoi.
Oui, mais d'après ce que j'ai compris, comme elle était un petit peu perdue quand même au moment où elle arrête le cinéma, et puis bon, il faut quand même se remettre dans le contexte, hein, elle était sans doute hyper sollicitée malgré tout, elle a pris des conseils auprès d'un écologiste suisse qui s'appelle Franz Weber.
Qui l'avait accompagnée justement.
Exactement,
aussi.
Exactement, voilà.
Ouais,
donc
au Canada.
Lui a dû en fait beaucoup l'aider, elle fait régulièrement allusion à son aide en fait.
En 76, elle a créé sa fondation. Et en fait, moi, j'ai plus connu Brigitte Bardot avec sa fondation que Brigitte Bardot comédienne, quoi. Et ça a été quoi ? C'est l'objet d'une de ses vies ?
Elle dit que c'est la plus grande réussite de sa vie.
Ouais.
Mais ça aussi, c'était aussi original, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'acteurs à ce moment-là, ou d'actrices, en tous les cas. D'ailleurs, en France, je pense que c'est une des rares, hein, avoir créé une fondation, puis à laquelle elle a consacré, en fait, tout son argent.
Ouais.
Elle a légué ses maisons. En fait,
pour sa fondation,
et elle a vendu en fait tous ses effets, mais c'est même assez cocasse, parce que elle a fait une vente aux enchères en fait des pièces précieuses, et puis le reste, elle est allée au marché des Lys à Saint-Tropez, elle a acheté un espace, et puis elle a vendu ses affaires, et c'était elle qui tenait le stand
quoi. Voilà, c'est à l'image de Brigitte Bardot, quoi.
Exactement.
À la fois inaccessible et en même temps très accessible et engagée dans cette cause. Avant de choisir cette voie de la défense animale, Brigitte Bardot, eh bien c'était bébé, c'était une star planétaire qui un jour a dit stop. Après, elle a bénéficié de l'aura de sa première vie pour pouvoir faire passer ses messages dans la défense des animaux. On vous raconte sa carrière dans un instant avec Véronique Lebris. À tout de suite.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
La journaliste Véronique Lebris a accepté notre invitation pour parler de Brigitte Bardot ce soir dans Jour J. Elle vient d'où, Brigitte Bardot, Véronique ?
Elle vient du 16e arrondissement.
Donc quartier chic.
Quartier chic,
de
Paris. Famille industrielle de Paris, oui.
D'accord, donc milieu aisé.
Oui.
Une jeune fille aimée.
Oui, oui, quand même très entourée par sa famille, un peu autoritaire, je crois, d'après ce que j'ai lu.
Ouais.
Non, mais elle était bien née, oui, rue Avenue Paul Doumer, grand appartement, maison de campagne.
Donc, près du Trocadéro, dans le 16e arrondissement de Paris. Donc, une vie de jeune fille aisée. Donc, elle avait, on va dire, tout pour elle. Elle était déjà très jolie. Elle avait elle est issue d'un milieu qui ne manque de rien. Comment la passion du cinéma est-elle née ? Est-ce qu'elle l'a eue, d'ailleurs, un jour, cette passion ?
C'est difficile à dire, ça.
Ouais. Elle était artiste.
En fait, au début, elle est danseuse. Hein. C'est, ouais. Elle fait de la danse classique.
Ouais.
Elle commence très tôt, ce qui lui donne d'ailleurs...
Ce porte de tête.
Voilà. Et
magnifique.
Puis ce corps, en fait...
Ouais, de dingue.
Voilà.
Ouais.
Comme dire
si peu.
Et puis, elle commence à faire du mannequinat. Elle a 14-15 ans.
Ouais.
À faire la couverture pour elle.
Ouais.
Sur une série qui est mère et fille, puisque je crois que sa mère a posé un peu. Puis sa mère, elle devait être. Enfin, c'était le milieu un peu bourgeois qui avait quand même des connexions et donc qui devait connaître Hélène Lazareff, enfin, qui connaissait quelqu'un en tous les cas à elle. Donc elle commence assez vite et puis elle est repérée par Marc Allégret qui veut faire un film sur la jeunesse et finalement c'est son assistant Roger Vadim qui tombe amoureux.
Alors, truc de dingue, donc elle rencontre Roger Vadim. D'ailleurs, son premier rôle, elle l'a vraiment décroché aux côtés de Bourvil, dans Le Trou Normand. Alors, Brigitte Bardot dans Le Trou Normand, c'était sur les écrans en novembre 52. Et effectivement, c'est à cette période-là qu'elle rencontre Roger Vadim, qui était aussi d'une beauté assez fracassante, un jeune couple magnifique. Ils se marient très rapidement et c'est justement devant les caméras de son époux qu'on la découvre en 56. Elle est d'une beauté à couper le souffle, elle a 22 ans et elle fait chavirer le monde entier au Festival de Cannes. Elle a même réussi à éclipser Sophia Loren et c'était dans Les Dieux créent la femme. Et là, c'est tout le monde tombe en émoi devant Brigitte Bardot.
Oui, il a été plus malin que ça, Roger Vadim, parce que c'est vraiment été un pygmalion très subtil. Il travaillait à Paris Match, et donc il a alimenté Paris Match avec des photos de sa compagne, et finalement jeune épouse, puisqu'elle l'a épousée, elle avait 18 ans, hein, donc elle était vraiment très jeune. Donc il a commencé à bâtir sa notoriété comme ça, en fait, en la faisant connaître, en faisant parler son image, et puis effectivement en l'invitant au Festival de Cannes, où elle était un peu la starlette, en fait, du coin. Et puis finalement, lui, il avait des velléités de réalisateur, donc il fait ce film. Mais quand même, Et Dieu créa la femme, c'est le 18e film de Brigitte Bardot, donc elle en a fait 17 avant.
Mais le public la découvre vraiment à ce moment-là. Enfin, elle devient un phénomène.
Le public du monde entier la découvre.
Oui,
surtout, en fait, le film est distribué aux États-Unis, mais il est interdit, en fait. Donc, et c'est là où ça prend.
Trop chaud, trop sulfureux, trop incendiaire.
Trop tout et trop moderne, sans doute, puisqu'à l'époque, hein, c'est plutôt des stars qui sont relativement, enfin, très, très fabriquées, très, quand même, avec une sexualité qui est assez maîtrisée, même s'il y a beaucoup de sensualité, genre Marilyn Monroe, quand même, mais Bardot arrive et elle démode Marilyn Monroe.
Ouais, c'est ça. Voilà. Donc elle a quoi ? Elle a la fraîcheur, elle est d'un naturel absolument déroutant, sûrement, j'imagine, à cette époque-là.
En fait, je crois qu'elle invente la jeunesse, moi, tout simplement.
Et la liberté.
Voilà. Enfin, la jeunesse pour les femmes, évidemment, puisque à l'époque, les femmes s'habillaient comme leur mère. Et donc, elle invente, oui, c'est une tornade, elle décoiffe, en fait, elle impose son style à elle, sa liberté, son exubérance, sa sensualité débordante, son envie de vivre, en fait, tout simplement.
Son ascension, elle est fulgurante, hein, c'est-à-dire que tous les réalisateurs s'entichent de cette jeune star.
Bah, fulgurante, quand même, 18 films, hein, c'est pas...
Mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où elle est connue, c'est un phénomène.
C'est une tornade internationale.
Ouais.
Un peu partout dans le monde, et ça devient un modèle, en fait, pour toutes les femmes de l'époque.
Alors, ces déplacements provoquent l'hystérie, comme en 63, elle est à Londres pour les besoins d'un film d'Edouard Molinaro, c'est une ravissante idiote. La foule est prévenue de sa présence, elle envahit la rue, elle fonde sur Brigitte Bardot, le tournage est annulé à cause de ça. Brigitte doit rentrer en France, écoutez-la revenir quelques temps après sur cet incident au micro de la radio-télévision suisse.
Il y avait de tout, il y avait beaucoup de photographes, il y avait énormément de gens de la rue, de public, et il y avait la télévision, les actualités, enfin un tas de gens, ce qui fait que vraiment on était débordés, submergés complètement.
Les gens qui criaient ?
Oui, les gens criaient, voulaient des autographes, voulaient me voir, me toucher, m'approcher, enfin c'était... Je peux pas dire que ça soit ni irritant ni désagréable, c'est une expérience qui doit arriver une fois dans une existence.
Alors, une expérience qui doit arriver une fois dans une existence, c'est devenu la vie de Brigitte Bardot.
Ben oui, il y a même eu un film là-dessus qui s'appelle Vie privée de Louis Malle, où elle est traquée en fait constamment. Elle n'arrive même pas à monter à Cannes, en fait, les fameuses marches de Cannes, tellement il y a de monde pour la freiner. Toute sa vie a été comme ça. Son accouchement, il y a tellement de photographes qui étaient déguisés en médecins qu'elle n'a pas pu aller à l'hôpital. Enfin, c'était horrible. Hein.
Donc c'est devenu un calvaire, puisque vous dites que c'était horrible. C'est devenu un calvaire pour une femme qui un jour a voulu la paix, quoi.
Ben, en tous les cas, moi, j'aurais pas aimé, mais bon, je pense que c'était insupportable.
Non, mais c'est-à-dire que sa décision, voilà, c'est ça. C'est que le général de Gaulle en a fait Marianne, et en 73, elle va annoncer l'arrêt de sa carrière. Donc, est-ce qu'à un moment donné, elle a été rincée ? Est-ce qu'elle a été essorée, justement, par tout ça ?
D'après ce qu'elle dit, en fait, donc, quand elle se confie dans ses livres, etc., je pense qu'elle aimait pas trop le milieu du cinéma. Ouais. Elle le trouvait assez hypocrite et ça correspondait pas du tout à sa nature, en fait, à elle, qui est quand même assez cash. Et puis, oui, cette notoriété débordante. Enfin, ce côté, c'était presque une appropriation des gens.
Bien sûr. Elle était objectisée. En tout cas, en 73, elle annonce l'arrêt de sa carrière. Elle va se réfugier à la fameuse Madrague, sa maison de Saint-Tropez. Elle ne reviendra jamais sur sa décision. On y reviendra plus tard. Mais une question se pose quand même. Brigitte Bardot aime-t-elle aussi son prochain ? Parce qu'on parle beaucoup, beaucoup des animaux. Mais comment ça s'est passé avec son prochain, l'être humain ? Bardot et les hommes, les femmes, les humains, c'est tout de suite dans Jour J.
Flavie Flamand sur RTL.
Si Brigitte Bardot nous touche ce soir en tant que pionnière dans la défense des animaux, combat qu'elle vit avec fougue, générosité, passion et conviction, qu'en est-il avec son prochain ? Véronique Lebris, vous êtes notre invitée, vous êtes journaliste, merci d'être là. On se pose la question en fait, est-ce qu'elle aime l'humain ou est-ce qu'elle fait partie de ceux qui préfèrent les animaux, Brigitte Bardot ?
Bah, elle a beaucoup aimé les hommes quand même, on peut lui accorder ça.
Ouais. Donc, mais l'homme en règle générale ?
Je pense que, on l'a dit, un peu misanthrope, effectivement, la notoriété l'a beaucoup isolée, en fait, finalement. Mais je pense que quelqu'un qui s'engage autant auprès des animaux ne peut pas ne pas aimer l'humain. Parce qu'en plus, à chaque fois qu'elle cite son combat, elle explique que c'est la férocité humaine qui la bouscule, qui la transperce et qui la rend très malheureuse, en fait, et qu'elle défend, en fait, les animaux, parce qu'elle aime l'authenticité des animaux, l'absence de calcul, mais que ce qui la choque, c'est justement le comportement aberrant des hommes.
Voilà, donc elle fustige, en fait, l'humain, quelque part, dans son combat.
Elle le fustige, mais en même temps, c'est presque pour l'élever, en fait. Donc, moi, je pense qu'elle aime l'humain, en fait. Elle juge le comportement brutal, en fait. Elle s'horrifie du fait que l'humain ne se comporte pas comme il devrait. En fait, disons, c'est plus un problème de valeur. Non, je pense qu'elle aime.
Enfin, elle fait pas partie de ceux qui disent, oh, alors là, moi, je préfère mon chien à mon voisin. On entend, hein, comme ça, il y a des gens qui vouent une passion aux animaux, qui ne sont bien qu'avec des animaux, parce qu'il y a effectivement, quelque part, une relation singulière et une facilité dans la relation qu'on ne trouve pas avec l'être humain. Elle ne fait pas partie de ces gens-là, selon vous.
Voilà, elle a eu quand même des mots malheureux, ça. Pour ça, notamment à la naissance de son fils, en fait.
Alors, avant de parler des hommes, bah, allons-y tout de suite. Parlons donc de Bardot et les enfants. En 70, elle a un fils, né de son mariage avec son second mari, Jacques Charrier. Elle déclarera « J'aurais préféré accoucher d'un petit chien ».
Voilà, bon, elle est capable de ça quand même.
Voilà, elle parle même d'une tumeur quand elle parle de sa grossesse. Enfin, c'est ça Bardot aussi, c'est paradoxal, c'est à la fois un visage d'ange et puis ce sont des mots parfois qui sortent qui sont extrêmement violents.
Moi j'ai une autre analyse de ça, je pense qu'elle n'avait pas envie d'avoir d'enfant, ce qui est... Pourquoi pas, enfin,
c'est
tout à fait légitime.
Droit le plus strict, ouais.
Voilà. Je pense qu'on lui a sans doute un peu forcé la main, mais bon, un peu, voilà, ouais. Elle fait partie d'une société, disons, patriarcale, on va dire ça comme ça, ou alors, où c'était un moyen, en fait, pour les hommes, un peu, d'essayer de la contrôler, parce que malgré tout, une femme avec tant de fougue, il y a quand même des hommes qui cherchent à contrôler, en fait, ses tempéraments de feu. Ben, je sais pas, à un moment, elle a dû céder pour une raison X ou Y, on sait qu'elle a, enfin, elle a avoué avoir avorté plusieurs fois, ouais. Donc voilà, et elle n'était pas faite pour ça, et elle aurait mieux fait de respecter effectivement son désir profond de ne pas avoir d'enfant, sans doute. Alors après,
ça fait des malheureux. En tout cas, les mots sont malheureux. Là, ça nous donne une idée aussi du personnage Bardot, enfin de la personnalité de Brigitte Bardot. Vous m'avez dit, elle aimait les hommes. Alors, parce que les hommes voulaient la contrôler, donc c'est bien qu'elle kiffait les hommes.
C'est une notoriété publique, elle a eu beaucoup, beaucoup d'amants quand même.
Ouais.
Et puis elle a eu à peu près tous les plus beaux hommes, disons, de sa génération.
C'est-à-dire, voilà. Faites-nous rêver un peu là.
Bah, Vadim, c'était pas mal, donc c'était un beau début.
Vadim, c'était un super début. Ils étaient jeunes, ils étaient beaux tous les deux. Mais enfin, après, j'imagine que le cinéma lui a ouvert les portes de 36 000 possibilités, quoi.
Bah, sur Dieu créa la femme, elle part avec Jean-Louis Trintignant, qui était. Voilà, donc après, il y a eu Gainsbourg, Sacha Distel, Samy Frey, il y a eu Gunther Sachs, voilà, Jacques Charrier avec qui elle était mariée. Enfin, moi, j'ai pas tenu son carnet de balles non plus.
C'était une notoriété publique. C'était une femme qui aimait les hommes, qui avait cette liberté-là en tout cas. Elle inspirait une liberté sexuelle.
Exactement, oui. En fait, qui assumait sa sexualité, son désir, son envie de changer, et puis son envie de tester les hommes. En fait, j'imagine qu'elle devait se lasser assez vite, qui peut être assez compréhensible. Puis comme elle était très, très belle, très sexuelle, très sensuelle, elle a profité de la vie. Tant mieux pour elle. Hein. Même après, dans la cause animale, d'ailleurs, parce qu'elle a été avec Alain
Bougrain-Dubourg,
et puis elle a eu d'autres hommes, et puis voilà, bon, jusqu'à la fin de sa vie, elle est encore en couple, d'ailleurs.
Elle a un compagnon. Son rapport aux femmes.
Un mari.
Elle a encore un mari. Elle est mariée vraiment 3-4 fois, quoi. Ouais. Comment est-ce qu'elle considère les femmes ? Parce que vous l'avez dit en préparant cette émission, c'était un peu une féministe, selon vous, Brigitte Bardot.
Elle ne revendique pas du tout le terme d'être féministe et elle dit que la libération des femmes est liée pour rien. En fait, moi, c'est pas ça. Je pense qu'on l'a toujours présentée comme étant une rivale des femmes, en fait, puisqu'elle se servait, en fait, des hommes qui étaient à sa disposition, n'est-ce pas, qu'ils soient en couple ou non. A priori, ça n'avait pas l'air de lui poser problème. Bon, bah, peut-être. J'ai pas l'impression qu'elle soit contre les femmes, en fait, que son combat était contre les femmes, qu'elle se soit comportée en rivale. Elle était libre, elle pensait à elle pensait à sa sexualité à elle, en fait, à son désir à elle. mais elle n'était pas calculatrice contre les femmes. Et j'ai jamais rien noté dans son comportement qu'elle est contre les femmes. Et d'ailleurs, l'amitié qu'elle a avec Marguerite Yourcenar, la façon dont elle la vénère, est très intéressante, en fait. Donc, c'est une reconnaissance, en fait, assez importante. Et puis, on peut dire, même si elle n'est pas d'accord avec ça, que quand même, ce qu'elle a apporté aux femmes, mais c'est colossal, en fait. Il n'y a personne d'autre qui a fait plus qu'elle, finalement, pour la libération des femmes.
Dans quel sens ? Dans l'image qu'elle renvoyait, dans sa liberté de se pointer à l'Élysée en pantalon, dans...
Oui, c'était même quoi, de changer de partenaire sexuel à sa guise, d'avoir, en fait... Il y a un moment, elle cite Vadim qui lui dit, bah voilà, une femme qui couche avec beaucoup d'hommes, c'est une salope, alors qu'un homme, c'est un donjon. Et elle dit qu'elle a décidé de changer cette image-là. C'est beaucoup, ça, puisque finalement, ça nous catalogue beaucoup, en fait, ça nous étiquette les femmes, on doit se tenir sage, en fait, grosso modo. Et elle a décidé de ne pas se tenir sage. Et elle l'a fait au vu et à la suite de tout le monde, en fait, sans le revendiquer particulièrement. C'est juste qu'elle ne s'est pas cachée pour le faire.
Elle s'en foutait, quoi. Elle se foutait de l'image qu'elle pouvait renvoyer dans sa liberté. Elle était libre.
Bah, disons que je pense que c'était plus important pour elle de revendiquer sa liberté, de vivre telle qu'elle avait envie de vivre, de ne pas être apprêtée comme on s'attendait à ce qu'elle soit apprêtée non plus. En fait, elle n'est pas...
Elle est indomptable.
Un peu.
Un petit peu beaucoup. En tout cas, sur les femmes, moi j'ai noté en préparant cette émission qu'en 2003, elle déclarait « Et toutes ces femmes ministres du gouvernement, est-ce vraiment leur place ? Les femmes, si elles savent se servir de leurs atouts, auront toujours le pouvoir de faire plier les hommes à leur moindre désir. Point besoin de prendre les places qui ne sont pas les leurs pour arriver à leur fin. » Et ça, j'ai pas trouvé ça super... J'ai pas trouvé que c'était un comportement de sororité, vous voyez ce que je veux dire ? Alors on est en 2003, qui ont passé, mais c'est quand même une déclaration qu'elle a faite sur là où aujourd'hui on dit qu'il faut que les femmes prennent leur pouvoir, là où on lutte pour l'égalité. Là, en l'occurrence, le discours de Bardot, il va pas dans le sens de l'image qu'elle pouvait renvoyer dans les années 60-70.
Non, mais de toute façon, c'est sûr qu'elle n'est pas du tout dans la sororité, ça c'est incontestable, mais elle n'est pas dans la rivalité non plus.
Je comprends.
Voilà, c'est ça qui est intéressant, en fait, dans son personnage. Elle a ouvert des portes, en fait, elle ne s'est pas préoccupée des autres, en fait, ça c'est vrai, en fait, elle a un égo assez fort, malgré tout, et puis une façon de faire, mais elle l'a pas fait en détruisant les autres, en fait, vous voyez ce que...
Elle n'avait pas la volonté
Et par contre, elle a de temps en temps, en fait, même assez souvent, disons, je pense que c'est ces relents de bonne éducation bourgeoise, où, en fait, les choses doivent être à leur place, en fait, d'une certaine façon, même si elle ne se comporte pas du tout comme ça.
Elle est un peu conservatrice, quoi. Par certains aspects.
Ouais, même réactionnaire de temps en temps, on peut dire ça.
Eh ben justement, on va en parler dans un instant. On va prendre des nouvelles de Brigitte Bardot aujourd'hui, et c'est dans un instant dans Jour J.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Jour J qui revient ce soir sur les vies de Brigitte Bardot. Après l'idolâtrerie qu'elle provoquera partout où elle ira, Bardot se retirera en 1973 après avoir mis un terme à sa carrière. Et Véronique Lebris, elle a tenu parole. Il y en a plein qui nous ont dit j'arrête et puis qui sont revenus quelques années plus tard. Non, elle a tenu parole.
Elle a tenu parole, elle avait pris sa décision et c'était fini. Voilà. Elle est passée à autre chose.
Il y a quelque chose d'assez fascinant quand on peut la voir maintenant, et c'est vrai qu'on la voit de moins en moins, mais c'est de voir que cette femme a vieilli loin des objectifs, mais a laissé le temps aussi agir sur elle. Vous le notiez il y a un instant pendant cette coupure, Brigitte Bardot n'a pas eu recours à la chirurgie esthétique, et c'est vrai.
Bah, c'est ce qu'elle dit. Alors moi, il y a eu des artifices un peu quand elle est revenue à la télévision. Là, elle était floutée, donc c'était ridicule d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'a priori, oui, elle a pas
eu... Ah bon, elle était floutée ?
Oui, il y avait une interview, je crois que c'était de Marc-Olivier Fogiel ou quelque chose comme ça.
Ouais, je sais pas.
En fait, et elle était floue, hein, parce qu'elle avait...
Ah, il y avait une sorte de d'halo, voilà. D'accord, ok.
Est-ce que c'est elle qui l'avait demandé ? Est-ce que c'est le diffuseur ? Je sais pas. Mais non, mais elle, a priori, elle a pas fait de chirurgie esthétique. Bon, d'abord, elle est un peu contre toutes les médecines et les
En plus, c'est clair.
Voilà, mais il y a quand même pas beaucoup d'actrices en fait de sa notoriété en tous les cas qui ont vieilli sans.
Ouais. Mais parce qu'elle n'a plus les objectifs braqués sur elle, je dirais. Parce qu'elle vit un peu recluse ou pas à la Madrague.
De toute façon, elle a été tellement traquée que je pense qu'elle s'est habituée en fait à vivre un peu recluse. Mais en même temps, ça c'est plutôt bien parce qu'elle sort de sa tanière évidemment, elle a vieilli maintenant, mais elle sort de sa tanière pour défendre les causes qui lui tiennent à cœur. Donc ça c'est très bien.
Elle a 88 ans aujourd'hui. On a parlé de son combat pour la cause animale, mais elle n'a jamais non plus caché ses idées d'extrême droite. Brigitte Bardot, dans son livre Un cri dans le silence en 2003, elle va donner son point de vue sur le métissage. Donc je vais la citer, même si c'est pas facile pour moi, je vous avoue. Alors que chez les animaux, la race atteint des sommets de vigilance extrême, les bâtards étant considérés comme des résidus bons à laisser pourrir dans les fourrières, nous voilà réduits à tirer une fierté politiquement correcte à nous mélanger, à brasser nos gènes, à faire allégeance de nos souches afin de laisser croiser à jamais nos descendances par des prédominances laïques et religieuses fanatiquement issues de nos antagonismes les plus viscéraux. C'est extrêmement dommage. Bon, c'est un peu la théorie du grand remplacement et tout le tintouin. Je ne sais pas si elle s'est affichée pro-Zemmour d'ailleurs. En politique, elle s'exprime parfois, mais elle a des idées radicales quand même.
Enfin, moi, les dernières choses que je connaissais, c'est qu'elle avait effectivement encensé un peu Marine Le Pen il y a quelques temps. Je lui avais demandé, en fait, et elle m'avait dit qu'elle n'avait jamais pris sa carte au Front National ni au Rassemblement National, que la seule conviction politique qu'elle avait, c'était sur la cause animale et qu'elle ne jugeait les candidats que pour ça, et qu'elle racontait d'ailleurs qu'elle était très déçue parce que tous les présidents la recevaient. Et finalement, parce que c'était Brigitte Bardot, mais il n'y avait rien, en fait, à la suite. Elle ne prenait pas de décision et ne l'écoutait plus. Donc, elle était un peu revenue de la politique.
Elle a fustigé Emmanuel Macron à ce sujet-là, d'ailleurs.
Lui comme les autres, d'ailleurs. Et je lui avais dit, mais votre mari, quand même, était très, très proche du FN. Et elle m'avait répondu, et elle a raison, je dois dire, mais en quoi vous considérez que les idées politiques de mon mari sont les miennes ? C'est vrai.
En même temps, quand on lit son livre, on peut se dire qu'effectivement, ou quand on lit ces lignes-là, on peut se dire quand même qu'elle épouse un peu les idées de son mari.
Elle dit qu'elle est gaulliste. Hein, de toute façon, elle a des prises de position qui sont effectivement difficilement défendables, enfin insoutenables en tous les cas pour ceux qui ne sont pas d'accord avec elle. Ça, c'est sûr. Moi, je la valide pas sur ces prises de position-là, mais bon, elle a d'autres talents, quoi.
On l'a entendu pendant toute cette émission, Bardot, c'est le franc-parler qui, ces dernières années, parfois a confiné à l'injure. En 2019, quand elle reproche aux Réunionnais de maltraiter les animaux errants, elle les qualifie d'autochtones aux gènes sauvages. C'est fort de café aussi, ça.
Oui, il y en a plein. Elle est de droite, incontestablement, et de droite plutôt très à droite, sans aucun problème. Mais par exemple, le monde du cinéma lui a jamais pardonné ça, alors qu'il l'a tout à fait pardonné à Alain Delon, sans aucun problème.
Oui, mais ce sont deux icônes qui vieillissent avec leurs convictions et qui en font part.
Oui, mais qui ne sont pas jugés de la même façon.
Pas reçus de la même façon. Non. Comment est-ce qu'elle vit les critiques ? Est-ce qu'elle est vraiment totalement insensible à ça ? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui peut rester touché ? Et c'est la raison pour laquelle elle vit un petit peu en retrait de tout ça. Parce que quand elle parle, ça fait, à chaque fois, c'est un pavé dans la mare.
Moi, j'ai l'impression quand même qu'elle a tellement conscience que ça va faire splash, qu'elle le fait un peu consciemment, quand même, qu'elle se joue un peu de ça.
De tout ça.
Sachant qu'elle va se replier sur elle-même, en fait. Enfin, en tous les cas, être recluse à nouveau là. La fois d'après, mais oui, bon, c'est pas la partie la plus intéressante. Enfin, c'est celle malheureusement qui est la plus connue, maintenant parce que c'est ses prises de parole, mais c'est vraiment pas la partie la plus intéressante.
Alors, justement, quelle est l'image selon vous qu'il faut garder de Brigitte Bardot ?
Moi, je garde l'image aussi parce que c'est un peu mon secteur d'activité. Moi, je préfère évidemment la partie sur le cinéma. Enfin, plus que la partie sur le cinéma, c'est la partie de la libération, l'apport de la jeunesse, la fougue, la liberté qu'elle a imposée, à tout le monde. En fait, c'est quand même, même encore aujourd'hui, il y a quand même des actrices qui s'habillent comme elle, quoi, qui se revendiquent comme elle, alors qu'elle n'a pas tourné depuis 1973. Elles n'étaient même pas nées, en fait. Donc voilà, c'est ça qui m'importe. Pas tant pour la beauté d'ailleurs que pour l'audace plutôt. C'est plutôt son comportement très audacieux, très finalement
mutin.
Assez sûr d'elle. Voilà, et puis j'aimais bien en fait quand on l'écoute à cette époque-là en fait et toutes les interviews qu'elle a données, tout ça. Elle passait un peu pour une ravissante idiote qui est même le titre d'un film qu'elle
de Molinaro.
Voilà, et elle n'est pas du tout comme ça en fait. Elle est beaucoup plus subtile, beaucoup plus intelligente en fait que ce qu'on laisse apparaître. Et je pense que les gens de l'époque, notamment, les journalistes de l'époque, en tous les cas, qui étaient beaucoup des hommes, n'ont pas voulu voir ça non plus. Donc, ils avaient un peu de mal avec l'intelligence de Bardot, en fait.
Eh bien, on restera sur cette image. Merci beaucoup, Véronique Lebris, d'avoir accepté mon invitation. Je conseille vos ouvrages, parce que vous êtes spécialisée dans la place des femmes dans le cinéma. C'est la raison pour laquelle vous étiez avec nous ce soir. Fashion et cinéma, c'est au Cahier du cinéma. Et 100 grands films de réalisatrices aux éditions Arte Grund. Merci à vous.
Merci beaucoup.